Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission thématique qui va s'intéresser aujourd'hui à Marvejol. En ce début d'année, nous allons faire un point sur l'année écoulée, également sur les perspectives à venir avec les grands travaux, les projets en cours et simplement la vie citoyenne sur la commune. Pour en discuter, nous avons avec nous Patricia Brémond, maire de la commune. Bonjour.
Bonjour.
Jérémy Pic, adjoint délégué aux infrastructures et aux travaux.
Bonjour.
Et Ghislaine Itier, adjointe déléguée à l'enfance jeunesse et à la politique senior. Bonjour.
Bonjour.
Alors Patricia Brémond, vous êtes maire depuis 2020 et vous avez souhaité développer deux axes forts depuis le début de votre mandat avec tout d'abord la sécurité. Marvejol a besoin de quiétude, Patricia Brémond.
Je pense que Marvejol, comme toute autre ville du territoire national, oui, effectivement, a besoin de quiétude. Je crois que la sécurité, ça concerne tout le monde, du plus petit au plus grand, au plus ancien. Et donc pour nous, c'était vraiment un axe fort de notre programme que de remettre un peu plus de sécurité dans les rues de Marvejol.
Donc il y a un travail qui a été fait sur la police municipale. Déjà, au niveau des infrastructures, avec un nouveau poste de police, c'est ça ?
Oui, effectivement. Donc on a souhaité mettre la police municipale au plus près des citoyens, donc en centre-ville. Avant cela, la police municipale était logée dans les locaux de la mairie, donc un petit peu éloignée quand même de la population, parce que tout le monde n'ose pas forcément pousser la porte de la mairie pour aller voir la police municipale. Et en même temps, donc, on a réaménagé un bâtiment, un local qui appartenait à la mairie pour en faire un poste de police municipale.
D'accord. Elle est située où exactement, du coup ?
Elle est située sur le boulevard de Jabrin, à côté de la place du Soubeyran, juste à côté de l'ancien tribunal.
D'accord. Le déménagement, c'est fait quand ?
Alors, ça fait maintenant un an et demi qu'ils y sont. Tous les travaux qui ont été opérés dans ce local ont été réalisés par nos services techniques. Je voudrais vraiment saluer l'excellent travail qu'ils ont pu faire, parce qu'ils partaient de rien. Et donc, ça nous permet effectivement d'être vraiment aussi à proximité des écoles.
Combien d'effectifs de policiers municipaux sur Marvejol ?
Alors, à ce jour, 3. D'ici début avril, 4.
D'accord. Un poste qui arrive...
Un recrutement nous avons fait, oui, pour avoir une équipe un peu plus consolidée.
Au niveau des équipements de cette police municipale, il y a eu du changement dernièrement aussi.
Alors, on a souhaité que nos policiers puissent être armés. Donc, grâce à l'autorisation délivrée par Monsieur le Préfet, aujourd'hui, c'est chose faite. Parce qu'on sait très bien que l'uniforme fait que quelquefois, ils deviennent des cibles, malheureusement. Et si on veut qu'ils puissent être en mesure de se défendre, mais aussi de défendre nos concitoyens, il fallait impérativement qu'ils soient armés.
D'accord. On s'arrête aux armes pour les nouveaux équipements ou il y a eu aussi autre chose qui a été amenée
Alors ce qu'on peut souligner aussi, et là je ne parle pas d'équipement, mais c'est la signature de la convention de coordination. Donc on a signé entre la gendarmerie et la commune. Donc je crois que c'est important parce que ça permet à nos policiers municipaux de venir en renfort des services de gendarmerie et notamment du PSIG quand ils sont sur le territoire et inversement.
D'accord, et inversement. Le PSIG, justement, on va en parler. Donc c'est le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale qui s'est densifié. Peut-être vous pouvez nous rappeler ce que c'est exactement un PSIG, de qui il dépend, quelles sont ses actions, à quoi il sert.
Alors le PSIG, il dépend de la gendarmerie, hein, ce sont des gendarmes d'intervention rapide, on va dire. Ils sont en train de travailler sur la densification du PSIG, puisque du coup, normalement, 6 agents supplémentaires devraient venir densifier le PSIG de Marvejol.
Tout le monde a des PSIG ou pas ? Comment ça
non.
se passe ?
Non. Il y a 2 PSIG sur le territoire de la Lozère, un qui est basé ici à Mende et un autre qui est basé sur Marvejol.
Du coup, c'est un peloton qui est périn, qui va rester sur Marvejol, ou il y a toujours des risques que ça change, qu'il parte, qu'il aille autre part ?
Il va être amené très certainement à véhiculer aussi sur d'autres territoires, mais en tout cas, il sera basé à Marvejol.
Il sera basé à Marvejol. Comment les loges ?
Alors, on est en train d'y réfléchir, c'est une très bonne question. Donc, il y a un projet qui est en train de voir le jour. Je ne peux pas tout dévoiler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore... assez confidentiel, mais on est en train de réfléchir justement à pouvoir loger ces gendarmes-là et très certainement d'autres.
On demandera à Jérémy Pic tout à l'heure.
Voilà, c'est ça.
Il a vu que je souriais.
Il parlera des infrastructures.
C'est ça. Là, on va parler de vidéo protection aussi. Il y a de la vidéo protection sur la commune de Marvejols.
Oui, alors il y avait un dispositif qui était déjà en place, qui était plutôt obsolète. Donc on a fait le choix de remplacer les 12 caméras existantes initialement et de venir compléter ce dispositif avec 21 autres, je crois. 22 autres.
En tout, 37 caméras.
En tout, 37 caméras, voilà. Qui sont positionnées sur l'ensemble du territoire communal et principalement aux entrées de ville.
D'accord, donc on double le nombre de caméras.
Ouais.
Se pose toujours, souvent, chez les citoyens, la question de la liberté, des caméras, tout ça. C'est la vidéoprotection, tout le monde peut voir les vidéos ou
absolument
non,
pas.
Voilà.
Non, la vidéoprotection, alors on va préciser les choses, effectivement. La vidéoprotection, elle peut être analysée, regardée par notre police municipale et la gendarmerie au cas où celle-ci aurait besoin d'identifier une personne qui aurait commis un délit important.
Voilà, parce que souvent, quand on parle de ce type de vidéo, on pense qu'il y a des gens qui regardent dans la rue ce qui se passe. C'est pas du tout le cas.
C'est bien pour ça qu'on appelle ça la vidéoprotection et non plus la vidéosurveillance.
D'accord. Vous mettez en place le principe de voisins vigilants. Vous pouvez nous rappeler le concept? Donc, c'est des citoyens qui s'engagent à la surveillance de leur quartier. C'est comment?
Voilà, c'est ça. C'est en fait dans des quartiers, des citoyens qui s'engagent à alerter la police municipale s'il y a, par exemple, un individu suspect, quelque chose d'inhabituel qui est en train de se passer dans le quartier. Et donc, ça permet d'avoir une réactivité beaucoup plus importante de la part de nos policiers.
Vous êtes allé voir la population, voir si c'était d'accord avec ce principe, si.
Alors, on en avait parlé déjà, puisque ça faisait aussi partie de tout le package sécuritaire qu'on voulait mettre en place. Donc là, il y a une plaquette qui va être diffusée. On va faire des réunions de quartier pour informer sur diverses choses, pas que les voisins vigilants. Et ensuite, les personnes qui le souhaitent iront s'inscrire à la police municipale et pourront participer au dispositif.
Voilà, et on donnera sur nos ondes les rendez-vous des réunions. Justement, on va parler de quartier, de citoyenneté dans la seconde partie qui est consacrée à la politique enfance, jeunesse et senior. Ghislaine Itier, vous êtes adjointe déléguée à l'enfance, jeunesse et la politique senior. Alors, on va peut-être commencer par parler du PEDT, le projet éducatif territorial qui vient d'être signé. En gros, en quoi ça consiste, un projet éducatif territorial ?
En fait, donc c'est un projet qui a été signé en octobre 2021 et qui a pour objectif de proposer aux collectivités et à chaque enfant un parcours éducatif et de qualité avant et après l'école. Voilà, c'est quelque chose qui se veut globalement, qui est là pour répondre aux besoins des enfants et des adolescents au plus près de leurs préoccupations. Et qui propose que ce soit en matière d'accueil, en matière de loisirs, mais aussi de leur permettre de pouvoir s'intéresser, s'associer et d'être acteur de la vie citoyenne.
D'accord.
Donc en gros, ce sont les bases du PEDT qui permettent de construire tout ce dont je viens de parler dernièrement.
Concrètement, quel genre d'action? Par exemple.
Alors bon, tout d'abord, on va peut-être se centrer sur tout ce qui concerne les modalités d'accueil des enfants et des adolescents. Donc sur Marvejols, il y a un accueil de loisirs qui accueille les enfants de 3 à 11 ans, un accueil adolescent que les jeunes peuvent fréquenter dès l'instant où ils ont l'âge de 11 ans et ça jusqu'à 17 ans. Voilà. Après, peut-être je reviendrai un peu plus sur cet axe-là.
Vous pouvez y aller maintenant.
Je peux continuer. Donc en fait... je vais peut-être essentiellement parler de l'accueil ado qui est en train de connaître une fréquentation importante avec des jeunes qui viennent et qui trouvent ce qu'ils recherchent. Donc c'est un accueil adolescent qui fonctionne de façon différente s'il est en suivant les périodes scolaires ou pendant les vacances. Donc en période scolaire, il est surtout fréquenté dès que les enfants sortent de l'école pour éviter de traîner dans la rue. Il est très bien situé, très bien repéré puisqu'il est aux abords des établissements et il est à proximité des ramassages scolaires. Voilà.
Il est à côté de la salle polyvalente, c'est ça ?
Il est à côté de la salle polyvalente de Marvejols. En période de vacances, donc ce sont davantage d'activités programmées qui sont proposées. Ça peut être sur site, mais ça peut être aussi des sorties extérieures. Et dernièrement, on a pu justement organiser aux vacances d'automne un séjour de vacances pour les 11-17 ans qui a remporté un franc succès. Voilà. Donc ça, c'était en matière d'accueil. Après, peut-être pour revenir sur le PEDT, je pourrais parler de l'accueil multi-site hein, qui a été mis en place sur le territoire. C'est un accueil innovant puisqu'il a permis, à un moment donné, à la commune de Marvejols, Montrodat et Bourg-sur-Collagne, de signer avec les services de l'État, avec la CCSS et avec la communauté des communes, une convention justement autour de ce PEDT.
C'est une mutualisation hein, avec voilà. Bourg-sur-Collagne, c'est
voilà.
ça.
Voilà. Donc, il s'agit d'un accueil donc multisite. Il est en place depuis le mois de septembre. Il fonctionne les mercredis pendant les périodes scolaires. Donc, il est innovant dans le sens où donc il a trois sites. Donc, le premier site, si on parle des tranches d'âge, donc se situe sur la commune de Bourg-sur-Collagne. Il accueille les enfants de 3 à 6 ans. Ensuite, les enfants de 6 à 11 ans sont accueillis sur Marvejols à la Coustarade, et puis l'espace Nogaric accueille les adolescents. Voilà. Donc il a permis de mutualiser, il a d'abord permis de permettre aux enfants de bénéficier d'activités selon leur tranche d'âge. Donc les rythmes sont respectés, les besoins sont respectés, les envies aussi. Voilà, donc en ce sens, c'est une richesse pour les enfants. Ensuite, il a permis la mutualisation entre les deux communes de Montrodat, du Monastier et de Marvejols, de mutualiser des moyens, du personnel, de la compétence. C'est ce qui était essentiel. Et surtout, il permet de fédérer et d'avoir une politique cohérente sur le territoire et de réflexion. Et j'ai oublié de préciser qu'en ce qui concerne le multisite, du coup, il y a un ramassage qui a été pris en charge.
C'est ce que j'allais vous demander, le transport est géré.
Voilà, donc c'est le personnel de l'accueil de loisirs qui gère avec un minibus qui a été récemment acquis le transport des enfants vers les lieux qui leur sont dédiés en fonction de leur âge. Donc, soit ils les amènent le matin sur les sites, ils les viennent les récupérer le soir. Voilà.
C'est une solution pour les communes rurales, j'imagine, de mutualiser.
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais,
ouais. J'ai pas eu vent que ça se fasse beaucoup en Lozère
ou ailleurs. Je pense que c'est le seul territoire sur lequel ça a pu être réalisé.
Ouais. Ça peut peut-être donner des idées à d'autres communes au niveau de l'expertise. Ouais. De savoir...
Ce que je voulais juste aussi préciser, c'est que justement en matière de recrutement de personnel dans le domaine de l'animation, que ce soit en termes d'encadrement ou de direction, on a vraiment du mal et des difficultés à recruter. Et du coup, ça a été un moyen, sur cet exemple-là, justement, de pouvoir mutualiser la direction et les personnels.
Oui, ça, c'est un problème sur l'ensemble du département.
Et c'est un problème
dans
général.
Dans le domaine de l'animation.
De l'animation en général, c'est national.
C'est un réel problème, ouais. Ouais. Savoir comment on pourra... Ouais. Solutionner ça. Du coup, c'est des agents communaux au centre de loisirs pour les adolescents.
Oui, que
c'est
ce soit.
Ça.
Oui,
ça. Aussi, d'accord, c'est géré par la commune. Je crois qu'on est bon pour le centre de loisirs et l'accueil de loisirs périscolaires en remplacement de la garderie du soir. Donc ça, pareil, c'est au même endroit, c'est à côté de...
Non. Alors, jusqu'à présent, donc, la commune avait organisé une garderie après le temps scolaire, après 16h30. Là, depuis la rentrée, on a proposé de transformer cette garderie en accueil de loisirs. En fait, on donne le choix aux enfants, soit de participer à une étude pour être accompagnés pour faire les devoirs, soit de participer à des ateliers sportifs ou des activités de motricité, soit de conserver un espace de détente comme ils l'avaient auparavant. Donc c'est un choix qui est fait aux familles. Ça permet d'augmenter en qualité aussi, puisque ce sont vraiment des activités qui sont proposées, et ça permet aussi de valoriser le personnel qui a des compétences et qui peut les exercer en toute quiétude. Voilà.
Voilà. Et si on veut pas faire l'étude ou le centre de loisirs, eh bien, hop, on va au conseil municipal jeune.
Ah oui, ça voilà, la transition est bien faite.
La transition, c'est travaillé, hein, c'est tout un art. Conseil municipal jeune, c'est la première année que vous mettez ça en place?
Ça a existé sur une mandature précédente. Et là, la commune donc a souhaité instaurer un dialogue direct avec les jeunes et les élus locaux, prendre en compte leur parole et leur permettre de s'exercer à la vie citoyenne. Donc au mois de cet automne, on a organisé des élections qu'on a voulu au plus près des élections telles qu'elles existent pour les adultes. Les jeunes ont fait une campagne, les jeunes ont organisé le scrutin et ont participé de façon active sur toute une journée. Ils avaient des cartes d'électeurs, voilà. Ensuite, les élections se sont déroulées. On a 14 jeunes qui ont été élus. Voilà.
De quel âge?
Du coup, les plus jeunes, c'est CM2, donc ça fait à peu près 10 ans. Et la plus âgée est au lycée, voilà. Mais surtout, on a une fréquente attention, oui, surtout d'élèves de CM2 et de collège. Voilà. On a eu plus de difficultés peut-être pour atteindre les lycées. Voilà.
Et oui, c'est un âge où c'est plus compliqué.
Après, moi, je pense que c'était important pour nous d'avoir ce panel de tranches d'âge pour que ce soit le plus représentatif possible de l'ensemble des enfants qu'on peut avoir sur le territoire. Après, je pense que ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que ces jeunes du Conseil municipal des jeunes ont orchestré la cérémonie des vœux. Donc, ils étaient maîtres de cérémonie.
D'accord.
Donc, ils ont accueilli les personnalités. Ils nous ont fait part aussi de leur programme, de ce qu'ils souhaitaient, etc., pour que la population soit au courant. Et c'était vraiment un moment très fort parce qu'on les a sentis réellement motivés. Et c'est vrai que c'est Ghislaine qui s'est occupée avec Sylvie de travailler un petit peu ce moment. Et moi, j'y croyais pas trop au début parce que je me suis dit, ils vont être très intimidés parce qu'on avait quand même plus de 450 personnes, donc c'est pas évident de prendre la parole. Et en fait, ils ont fait ça avec une aisance beaucoup plus que moi, je dirais.
Oui.
Attention, ils vont prendre votre place. Hein,
c'est la relève, c'est l'objectif.
C'est ça.
C'est vrai qu'ils sont très spontanés, ils sont authentiques. On les sent, ils parlent pour eux-mêmes. Hein, voilà, ils sont pas téléguidés comme on pourrait le penser au démarrage. Voilà, donc après, on s'est organisé un conseil, un peu comme un conseil municipal adulte aussi. Donc, on a créé 3 commissions. Donc, il y a la commission Le Vivre Ensemble, la commission L'Environnement et la Sécurité, et le Sport et la Nature. Voilà. Donc, ils ont des idées. Voilà.
C'est que le début, il n'y a pas encore
Ils ont des idées, ils les ont hiérarchisées, ils ont donné des priorités pour essayer justement de sélectionner les plus importantes. Donc dans les sujets qui les préoccupent le plus, eh bien, il y a avant tout la sécurité, que ce soit aux abords de l'école, que ce soit au niveau du passage piéton. Ils sont aussi très concernés par la mobilité, donc le vélo, la mise en place de stationnement de vélo, voilà. Après, sur la vie citoyenne aussi, ils sont très préoccupés par les aînés, voilà, par les personnes qui sont mises en retraite, donc, et puis aussi par tout ce qui concerne l'environnement, voilà. Donc, on essaie de faire un tri, les commissions avancent, là, on a mis des priorités, il y a des choses qui vont déjà s'engager rapidement, puisqu'ils vont aussi participer à la journée citoyenne, et ils vont se retrouver, donc, en situation active,
d'accord,
on pourrait dire, ouais.
C'est la combien de journées citoyennes? Parce que j'ai l'impression d'en avoir annoncé pas mal depuis 2020 sur notre antenne. C'est ça, une par an?
Normalement, mais c'est en fait un rendez-vous qui est pris depuis...
Il n'y en a qu'une par an, il n'y en a pas deux par an. Ah bon?
Il semblait
qu'il y en avait plus.
Ah, une par an.
D'accord. Ils n'ont pas parlé de la station d'épuration?
Non, pour l'instant, ça sera...
Ils n'ont pas dit, pas assez bien dimensionné, là, il faudrait faire quelque chose.
Pas encore.
Non, pas encore. Par contre, oui, pour les vélos, on va en parler après, parce qu'il va y avoir des travaux sur les routes. Et aussi, vous allez mettre un projet de rue aux enfants. Alors justement, ça match avec ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire de la tranquillité sur la route, de la sécurité. C'est quoi exactement cette opération?
Alors, donc ça, c'est aussi un dispositif qui est national, voilà, et qui permet à un moment donné de permettre aux enfants justement de se positionner dans l'espace public. Donc l'idée, c'est de fermer une rue, de fermer une place et de laisser la place au jeu, voilà. L'idée derrière, c'est que aussi s'approprie l'environnement, qui est peut-être aussi une connaissance de la population, une adhésion des familles, voilà, pour qu'en plus ça puisse le permettre après de connaître tout ce qui existe en matière de tout ce qui est fait pour la jeunesse. Voilà. On le voit aussi comme un mode de communication. Donc pour l'année 2023, on envisage trois après-midi, donc deux qui seront sur les quartiers extérieurs de la ville et une sur le centre-ville. Voilà. Donc là, c'est à construire. On pense qu'ils vont y participer.
D'accord. Voilà. Bon, c'est bien occuper des jeunes. Voilà. On va s'occuper des seniors aussi.
Oui, peut-être avant, j'ai pas assez peut-être développé ce qui se passe à l'accueil ado. En fait,
bien
je voulais peut-être y revenir. Donc, ce que je voulais rajouter, c'est que on envisageait aussi d'aller vers les établissements scolaires et vers les lieux où se regroupent les jeunes, justement, pour petit à petit leur permettre de trouver le chemin de l'accueil ado, de s'y impliquer et après peut-être d'être porteur, de créer des projets en fonction des besoins. Donc ça me paraît important. c'est vrai que bon, pour ça il faut du personnel, il faut peut-être des finances. On l'a essayé de le faire juste avant les élections des jeunes, ça s'est bien passé. Je pense que ça c'est une façon justement d'aller en contact au plus près de, d'eux et de pouvoir après les faire participer justement à ce qui se passe.
Peut-être un petit mot sur le centre de loisirs. Moi, là, je voudrais surtout m'adresser aux parents d'enfants et leur dire de surveiller le cahier de correspondance de leurs enfants, parce que on a prévu de réaliser un flyer pour expliquer ce qu'est notre centre de loisirs et les activités que les enfants peuvent y faire, etc. Donc ça, ce sera dans les prochaines semaines.
Dès le retour des vacances de, d'hiver.
Voilà, donc de bien surveiller les cahiers de correspondance, ce n'est pas de la publicité, juste une information sur le centre de loisirs.
Voilà, pour qu'on veut, vraiment s'assurer que tous les parents aient la connaissance de ce qui est proposé.
Très bien. Il y a combien de jeunes pour l'instant?
Mais pour l'instant, on est agréablement surpris puisqu'il y a déjà actuellement 80 jeunes qui sont adhérents et qui ont payé leur cotisation. Donc, on estime que c'est bien. Et puis, alors, ce qui a été très compliqué au début, c'est justement de tout le côté administratif, leur faire remplir le petit dossier, faire amener la participation financière. Et là, on voit que ça monte crescendo. Donc, je pense que c'est en train de prendre. Alors après, c'est pas tout à fait les mêmes jeunes qui fréquentent la structure, que ce soit pendant les périodes scolaires et pendant les vacances, mais ça apporte justement une richesse.
Bien sûr. Et l'espace ado, c'est combien de jeunes à peu près? Super. Donc je vous disais, on va s'occuper des seniors, un peu de nos aînés.
Donc maintenant, voilà, une année pour les pour les jeunes et l'année suivante pour les aînés. Voilà, puisqu'on envisage sur le même modèle de créer une assemblée des aînés, ce qu'on appelait avant conseil des sages. Voilà. Mais l'idée est la même, l'idée de faire participer les anciens à la vie citoyenne, de prendre en compte leur avis, d'apporter parfois des éclairages en fonction de leurs compétences. Et de leur permettre aussi de travailler sur le lien social. Et nous, ce qu'on aimerait à terme, c'est qu'il y ait une synergie entre le conseil municipal des jeunes et le conseil des aînés. Donc c'était un peu l'objectif. Donc pour l'instant, il n'est pas créé. Il va se créer sur l'année 2023. On va faire un appel à la candidature et on va construire un peu la feuille de route pour faire en sorte qu'il soit mis en place cet automne.
D'accord. Et sinon, qu'est-ce qui est prévu un peu pour nos aînés?
Je pense qu'on peut-être, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup pour l'enfance jeunesse depuis le début du mandat, mais c'est une volonté et on va continuer. Mais on veut aussi faire des choses pour nos aînés. Donc là, on a la semaine dernière, dimanche dernier, on a organisé pour la deuxième année consécutive le repas des aînés. Donc on a eu à peu près 120 convives qui étaient présents. Et pour ceux qui ne peuvent pas participer, on a mis en place les Gévo cadeaux, donc qui ont une valeur faciale de 20 €, qu'on peut donc donner à ces personnes-là pour ne laisser personne au bord du chemin, en fait. Donc là, il y a eu un repas organisé avec une animation musicale. Des retours qu'on a eus, ça a été plutôt un agréable moment. Donc nous étions présentes avec Ghislaine et puis d'autres conseillers aussi. Donc c'est quelque chose qui est offert par le CCAS de Marvejol, mais je crois que c'est un moment important parce que nos aînés transmettent leur savoir, transmettent leurs valeurs et transmettent aussi leur mémoire. Et comme l'a très bien dit Ghislaine à l'instant, notre objectif c'est aussi effectivement de mettre en lien ce Conseil des Sages avec le Conseil municipal des jeunes pour avoir cette réflexion intergénérationnelle qui tienne compte du passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Voilà, je crois que c'est une façon pour nous, en tout cas, de vouloir construire l'avenir de notre commune.
Voilà, et après, on rassemble tout le monde sur les journées citoyennes dont on vient de parler. Pour rappeler, c'est faire des petits travaux dans la ville. On se retrouve, on pique-nique ensemble.
Et surtout associer les habitants et partir de leurs idées en priorité. On préfère que ça vienne d'eux plutôt que nous imposer les ateliers ou les mini-chantiers. Donc, c'est ce qui va se passer cette année. Ça peut être dans le cadre du cadre de vie. Ça peut être en ce qui concerne l'histoire de Marvejol, le patrimoine, la culture et puis aussi tout ce qui est intergénérationnel, une nouvelle fois où il y a quand même beaucoup d'actions qui sont demandées pour aller vers les maisons de retraite ou alors permettre aux personnes en situation de handicap ou plus âgées de venir participer au repas partagé qui est prévu au milieu de cette journée.
D'accord.
Je crois que c'est important parce que ce que dit Ghislaine, c'est qu'effectivement, nous, notre volonté, c'est vraiment de faire participer la population, les habitants, au projet qu'on veut mettre en place. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on a prévu d'organiser des réunions de quartier, comme je vous parlais tout à l'heure, pour pouvoir continuer de cultiver l'allée verte sur toutes les thématiques, de manière à ce qu'on puisse construire ensemble et s'assurer que les projets que l'on va mettre en place conviennent au plus grand nombre des habitants de la ville. Je pense que c'est une manière aussi de pouvoir construire collectivement et avec une manière aussi de permettre à la population d'adhérer au projet parce qu'on les aura co-construits et donc de se les approprier après derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait débuter au mois de mars où on va aller dans les quartiers.
Pour les réunions de quartier.
Exactement.
Début mars.
Dans le mois de mars. Ce sera plutôt vers la fin.
Vers la fin. On me glisse que la journée citoyenne aurait lieu le 13 mai. Voilà.
Tout à fait. C'est ça, ce qui correspond à la journée nationale des journées citoyennes.
Voilà. C'est ça. Ah, d'accord. Il y a des journées nationales.
Il existe une journée nationale. Bon, okay. Les communes ne sont pas forcées de se fixer sur cette journée-là, mais cette année, on a trouvé que c'était bien de pouvoir le faire en même temps. Voilà.
Super. Ben, on est quasiment à la moitié un peu plus de la moitié de l'émission. On va faire une pause musicale. Ben, je vais vous laisser choisir. Laissez choisir. Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter comme chanson?
Quelque chose de gay.
Quelque chose de gay. Allez, écoutons quelque chose de gay. On se retrouve après.
Yes.
Allez, on est de retour dans ce magazine Théma consacré à la commune de Marvejols. On va parler infrastructure, projet structurant. Alors, Jérémy Pic, alors, ce ne sont pas souvent des sujets qu'on met en avant, ce ne sont pas des sujets vendeurs, mais bon, c'est ô combien essentiel. Je parle de l'eau, de l'assainissement. On sait qu'il y a des problèmes sur beaucoup de communes en France, y compris en Lozère. À Marvejols, quelle est la situation au niveau des canalisations, par exemple, d'eau ?
La situation au niveau des canalisations d'eau à Marvejols, elle n'est pas bonne. Clairement, on a un rendement sur nos canalisations d'eau potable à hauteur de 55%, c'est-à-dire qu'on vend 55% de l'eau potable qui est préparée à la station d'eau potable. Donc on est vraiment pas bon.
Donc il y a du travail à faire.
Il y a énormément de travail. Il y a des investissements très lourds derrière et oui, il y a énormément de travail.
Donc qu'est-ce qui va être fait là ? C'est quoi l'agenda dans les prochains mois, années ?
Année, ouais. Oui, oui. dans l'ordre, la station d'épuration de Marvejols. Je m'écarte un peu de l'eau potable, on part sur les eaux usées, mais la priorité des priorités, c'était la station de traitement des eaux usées, qui est actuellement sur la commune de Bourg-sur-Collagne. Les premières études datent de 2015. Rendez-vous compte, ça fait 8 ans aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on est en phase avant-projet détaillé. L'emplacement de la future STEP est prévu et connu et donc maintenant on a la maîtrise foncière. Le tracé des réseaux est finalisé à 90% vu avec le département aussi puisqu'il y a des passages sur voirie départementale. Là on espère d'ici la fin d'année 2023 lancer la consultation des entreprises.
D'accord. Ouais. Elle va se trouver où au final ?
Sur la route de Mende, à la sortie de Marvejols, en face de la route de Gimel.
D'accord. Là. Et on reconstruit à zéro en fait. On laisse tomber. Ah ouais.
Oui, reconstruite à zéro. Oui. Mmh. Oui, la station actuelle est complètement obsolète.
2015, vous avez dit, ça fait 7 ans. Ouais. C'est que c'est long à faire les études, tout ça, ou c'est une volonté politique qui n'a pas obligatoirement avant vous. On n'est pas là pour taper sur l'ancienne mandature, hein, mais pour comprendre en fait.
Il y a plusieurs critères qui rentrent en compte.
Je pense que la première des choses, c'est que normalement, pour pouvoir obtenir les financements, il fallait impérativement qu'on ait réalisé les schémas directeurs. À ce jour, les schémas directeurs sont en cours. Donc c'est une des raisons qui a un petit peu ralenti. Ensuite, on a la problématique aussi du réseau pluvial, où il y a énormément encore d'endroits où on a un réseau unitaire et non pas séparatif. Il faut impérativement qu'on arrive à sortir le pluvial parce que ça erronne le dimensionnement de la station. Donc il y a ces choses-là. Après, oui, moi j'ai le courage aussi de le dire que peut-être on aurait dû s'en soucier bien avant, mais il se trouve que entre le transfert de la compétence eau et assainissement et le moment où on a pu réunir et avoir les équipes pour travailler sur le projet, il y a eu aussi un laps de temps assez long.
Voilà, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, l'eau, l'assainissement sont des compétences de la communauté des communes. Bon, par chance, Madame Brémond est aussi présidente de la communauté des communes. Je suis vice-président de la communauté des communes, vice-président du SPIC de l'eau, assainissement de la communauté des communes. Aujourd'hui, l'avantage du terrain qu'on a choisi aussi, c'est que on découvre petit à petit qu'on a d'autres installations qui vont devenir insalubres, insuffisantes, etc. Notamment la station d'épuration de Payers. Et le nouvel emplacement de la station d'épuration permettra à terme de récupérer les eaux usées de Payers.
On peut chercher des subventions où, Patricia Brémond, pour des projets comme ça, on peut bénéficier de subventions de l'État, de...
Alors, les subventions les plus conséquentes sont les subventions données par l'Agence de l'eau.
D'accord.
Voilà. Après, il y a une commission des financeurs qui est en place ici sur le département de la Lozère. Tout le monde a connaissance des projets qui concernent l'eau et l'assainissement. Donc, bien évidemment, on va solliciter tous nos partenaires en espérant qu'ils puissent répondre au maximum et qu'on atteigne au moins les 80% de subventions parce que c'est vraiment des équipements indispensables et nécessaires à la salubrité publique.
Mais il faut bien garder en tête que, comme le disait Mme Brémond, les schémas directeurs ne sont pas anodins, notamment pour les demandes de subventions. Sans schéma directeur, il n'y aura aucune subvention d'attribuer.
Après, on peut d'ores et déjà dire, et je ne crois pas que ce soit quelque chose un secret que je trahisse, mais on a une subvention de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne qui est exceptionnelle. Et très sincèrement, moi j'en profitais d'avoir le micro pour vraiment remercier les personnes qui ont analysé le dossier et qui ont octroyé ces financements parce qu'ils ont vraiment pris la mesure de l'urgence.
Du coup, c'est pour ça qu'on va faire des travaux sur les routes également. On profite de ce gros chantier pour amener des canalisations, en rajouter.
Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on attaque la traversée de Marvejols, puisque c'est là que vous voulez en venir,
oui.
J'imagine.
Voilà.
La première, donc, c'est pour la mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales. Et la deuxième, c'est qu'à la base, le boulevard qu'on voulait refaire à Marvejols, c'était le boulevard de Jabrun, donc qui part de la place du Souverain et qui monte à l'église et qui est plus qu'endommagé, plus qu'abîmé. L'un amenant l'autre, il a fallu qu'on prenne une décision, à savoir, plutôt que de refaire uniquement de la voirie et laisser ce qu'il y avait dessous complètement obsolète, pour nous, ça nous semblait incongru, donc on en profite pour refaire ce qu'il y a dessous avant de refaire les aménagements. Malgré tout, on peut pas, quand on a du réseau unitaire sur une commune, qu'on veut le mettre en séparatif, il faut partir d'une zone où l'on est déjà en séparatif et remonter en amont. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est obligé de démarrer les travaux par la salle polyvalente et de remonter jusqu'à l'église.
Après. D'accord. L'eau vient d'où à Marvejols ?
L'eau vient de la Collagne à Marvejols.
De la Collagne, oui. D'accord. Cet été, ça a été compliqué. Comment on s'en est sorti ?
À Marvejols, on s'en est à peu près bien sorti. On a limité la casse. Il y a eu beaucoup de discussions, notamment avec Laurentio, le maire de Mende, puisque c'est la commune de Mende qui est gestionnaire du barrage de Charpal.
De Charpal, oui.
Pour Marvejols, ça va. Il y a des débits d'étiage, etc. Donc, on a réussi à limiter la casse. Par contre, sur les communes avoisinantes qui dépendent de captage sur des petites sources ou des grosses sources aussi, puisqu'il y a des sources comme Moroda qui ont tari.
Moroda, le Buisson.
Inhabituel, Moroda, le Buisson, jusqu'au mas de Saint-Laurent-de-Muret. Compliqué.
La Collagne en est où là? Parce qu'il n'a pas extrêmement plu.
Aujourd'hui, la Collagne, je pense qu'on est sur un débit aux alentours de 1 mètre cube seconde à peu près. J'ai pas vérifié les données. On peut vérifier quotidiennement nous les données. On a un site du syndicat mixte qui nous permet de vérifier les données. Donc au jour d'aujourd'hui, on est assez serein. Par contre, pour les jours à venir, vu la pluviométrie notamment du mois de février, il y a quand même du souci à se faire.
Ouais, c'est un problème récurrent mais qui est national hein, en final. On a parlé du boulevard de Place du Souberan jusqu'au boulevard de Jabrun. Là, on arrête le stationnement de Place du Souberan. Hein. On va partir du côté de l'îlot Châtillon pour mettre des places de parking, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Mmh. Voilà, l'idée, c'est de rendre la Place du Souberan totalement piétonne, de lui rendre sa ferveur d'antan finalement, hein, de récupérer tout l'espace pour le rendre piéton, beaucoup plus agréable, une visibilité de la porte du Souberan depuis l'entrée de Marvejols qui sera au top, quoi, qui sera génial. Quoi. Et puis si on se permet ça aussi, c'est justement parce que on est à proximité immédiate de l'îlot Châtillon, à l'intérieur duquel nous avons eu la possibilité de créer 49 places de stationnement au lieu des 27 actuelles sur la place du Souverain. Et stationnement qui sera du coup masqué par les murs de clôture de l'îlot Châtillon en plus.
Et qui seront accolés donc à ce beau projet soutenu par la communauté de communes qui est la maison de santé, la maison français service, Patricia Brémond.
Oui, tout à fait. Donc la maison de santé, ça fait quand même quelques années qu'on l'attend, que tout le monde l'attend. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche tout le bassin de vie. Cette maison de santé, elle est essentielle déjà d'une part pour nos professionnels de santé qui sont déjà présents sur le territoire, mais elle conditionne aussi l'attractivité pour accueillir de nouveaux professionnels de santé, puisque maintenant c'est le mode d'exercice qu'ils souhaitent. Donc on a vraiment tout intérêt à ce qu'elle sorte de terre le plus rapidement. On espère pour fin 2025, début 2026, les choses sont bien engagées. On a eu quelques difficultés, et là je veux le dire parce que ça n'a pas été des difficultés très réjouissantes, avec l'architecte des bâtiments de France, qui d'un côté, enfin, une première fois, nous avait dit d'accord pour tel projet, puis finalement, non, je reviens dessus, et ce sera celui-là, etc. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes à pouvoir négocier et à discuter. On a été extrêmement bien aidé par Thomas Audino, l'ancien secrétaire général de la préfecture, que je voudrais vraiment remercier parce que honnêtement, il nous a vraiment bien accompagnés. Et puis, monsieur le préfet a ensuite pris le relais. Et on est enfin arrivé à trouver un consensus avec l'architecte des bâtiments de France, qui nous autorise d'ailleurs le stationnement dans Châtillon, qui va donc, comme vient de le dire Jérémy Pic, être doublé. Donc, je crois que c'est important. On va pouvoir rénover l'ancien couvent de Châtillon, l'ancien couvent qui a connu aussi le lycée Saint-Joseph, que bon nombre de Marvejolaises et Marvejolais ont fréquenté. Donc c'est aussi leur rendre un peu un lieu de vie auquel ils sont attachés. Je crois que ça aussi c'est important. On va dans un deuxième temps y loger la Maison France Service. Aujourd'hui la Maison France Service est dans des locaux exigus et je rappelle quand même que la Maison France Service de Marvejols est la Maison France Service qui est à la deuxième place de l'Occitanie. Et ça, c'est grâce au travail que font nos agents. Il faut le reconnaître et il faut le souligner. Et donc, on leur doit quand même une qualité d'environnement de travail autre que celle qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. La maîtrise d'œuvre donc de ce marché a été lancée en début d'année, si je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Je fasse très attention à ce que je dis parce que je suis surveillée.
j'écoute. Voilà.
Et donc, je crois qu'elle doit être attribuée en avril, si je dis là encore pas de bêtises.
Ben, la remise des prix des maîtres d'œuvre est pour le 1er mars et les auditions pour le 16 mars.
Voilà. Et alors, ce qu'il faut aussi noter, c'est que dans ce projet, bon, c'est un projet qui va se réaliser en plusieurs phases, hein, parce qu'on en parlera tout à l'heure peut-être de la situation économique qui est nationale et pas que départementale ou autre. On a prévu aussi l'aménagement de logements pour seniors, de logements de qualité. Pas des petits logements, des logements où vraiment ils se sentiront pleinement chez eux et en sécurité, puisqu'on est dans la maison de santé juste en dessous au rez-de-chaussée, pour eux ce sera plutôt pas mal. Et tout ça avec un cheminement qui nous amènera directement en centre-ville, sur la place Cordès, mais aussi dans la rue de la République et la rue Jean Roujon, puisqu'on aura deux accès possibles pour cette maison de santé.
Voilà. Et logement, j'imagine aussi pour les internes médecins qui vont travailler.
Alors ça, ce sera dans un autre lieu très certainement. Aujourd'hui, le projet tel qu'il est décliné et tel qu'il est souhaité, c'est vraiment des logements pour nos seniors.
Pour les seniors, d'accord. Quand on fait une maison de santé comme ça, on a déjà une vision des professionnels qui pourraient y intervenir, voir des accords
oui.
ou pas
ou... Donc, ce qui est intéressant, on ne va pas refaire l'histoire. C'est vrai qu'on a mis énormément de temps à sortir cette maison de santé parce qu'il n'y avait pas de consensus entre les professionnels de santé et les élus. Chacun portant sa part de responsabilité. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a vraiment un consensus sur le lieu d'implantation, je parle, entre les élus et les professionnels de santé qui se sont formés en CISA, donc en association, et qui vont pouvoir bénéficier donc d'un secrétariat mutualisé, plus d'autres mutualisations. Ce projet de maison de santé, il est volontairement travaillé avec les professionnels de santé qui vont l'intégrer. C'est eux qui vont travailler à l'intérieur, c'est eux qui savent ce dont ils ont besoin en termes de locaux. Et pour nous, c'est très important de pouvoir travailler de cette manière-là et de ne rien imposer.
Du coup, on aura quel type de professionnels qui vont venir? Quel type de spécialistes?
Alors, à ce jour, il me semble qu'ils sont une quinzaine.
Une quinzaine, ah oui.
Donc, on aura des médecins généralistes, bien entendu. On aura des cabinets infirmiers.
Une sage-femme.
Une sage-femme.
Des kinés.
Il y a des kinés. Il y a un peu tous les corps de métier de la santé.
Voilà. Pas de dentiste?
Alors, les dentistes vont ouvrir leur propre cabinet dans Marvejols.
D'accord.
Donc, c'est un couple qui a fait l'acquisition d'un local dans Marvejols. C'est l'ancienne clinique vétérinaire, si je ne dis pas de bêtises, dans la rue des Teinturiers. Et donc, alors je reviens sur ce que je dis. Ont ouvert, pardon. Avec un cabinet extrêmement modernisé.
Voilà, parce qu'on sait que c'est un grand manque sur le département et qu'on a extrêmement mal à attirer ce genre de spécialistes. La maison de santé donc qui avance, hein, y a un autre gros projet porté par la communauté de communes, c'est une création de salles d'art vivant. Donc on rappelle le cinéma qui a rouvert en avril 2022, c'est ça ?
1er avril 2022.
Voilà, et c'est pas une blague.
C'est pas
non, c'était pas un poisson d'avril, c'était bien réel.
Voilà, après des années de fermeture. Et donc là, la volonté, c'est de créer une salle à coller. Expliquez-nous.
En fait, on a effectivement profité de l'opportunité de la vente du Café de Paris, qui est un local mitoyen à celui du cinéma, pour bâtir ce projet de création d'un ciné-théâtre, en fait, et donc de profiter, de pouvoir aménager cette salle-là, cette partie-là, pour y recevoir des spectacles d'art vivant, mais pas que. On imagine aussi d'autres choses plutôt intéressantes, puisque ça a séduit quelques personnes. On va pas trop en livrer ce soir, parce qu'on voudrait surtout pas qu'on nous pique l'idée. Voilà. Donc on va rester quand même prudent, mais ça devrait vraiment être quelque chose qui intéresse les Lozériens. Et là, je dépasse les frontières de la ville.
D'accord, donc on verra plus tard pour cette information. On va parler aussi de la vitalité de la vie associative sur la commune, et pour ceux qui se rappellent du théâtre de la mauvaise tête à l'époque, qui avait une grosse saison sur Marvejol, hein, à l'époque, hein, Jérémy Pic,
oui.
Vous rappelez.
Oui, oui.
L'ouverture du cinéma avril 2022, cette création qui va arriver. Je parlais de la vie associative, justement, donc une maison des associations qui est prévue, alors pas pour la fin de cette année, plutôt pour la fin 2024, Jérémy Pic, c'est ça ?
Oui, oui, fin 2024, si le calendrier nous le permet. Hein. Ouais. On a fait la réunion de lancement des travaux, de lancement des opérations, plutôt études, la semaine dernière, c'était vendredi, je crois. Donc avec toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, architectes, bureau d'études, acousticiens, j'en oublie sûrement, je m'excuse pour eux. La première phase actuellement là, consiste à un premier diagnostic vulnérabilité, puisqu'on est en zone inondable et forcément ayant une toute la surface en fait du moulin de la Goutelle posée à niveau R-1 est inondable quoi, est déclaré inondable et on peut pas faire n'importe quoi non plus quoi.
Oui, pour rappeler où c'est situé, c'est...
Alors le moulin de la Goutelle se situe à l'entrée de la zone de loisirs de Mascoussel. Donc que la majorité même des Lozériens connaissent, là, je pense, quand on dit Mascoussel. C'est le gros bâtiment en pierre apparente avec une magnifique toiture en loz, avec une douzaine de chiens assis.
C'est
le vrai bâtiment patrimonial. Ouais.
Oui, oui, oui. Et donc ça, on ne va pas toucher l'extérieur.
Non, l'enveloppe extérieure sera conservée quasiment à l'identique, hormis une ou deux sorties de ventilation, peut-être, mais...
Ouais, c'est de gros travaux encore. Il y a pas mal de travaux à venir
c'est,
là.
C'est costaud là. Là, c'est assez lourd. Ouais.
Ouais, c'est costaud. Mais justement, beaucoup de projets. Donc, on va parler d'économie. On sait que les communes lozériennes sont concernées par une hausse des coûts, notamment des coûts énergétiques. J'imagine que il en est de même pour Marvejol.
Marvejol, oui, ne fait aussi partie des collectivités qui sont touchées. Donc, on a un coût énergétique donc déjà de plus de 25% en 2022 et plus 20% en 2023. Donc ça, je crois que c'est, il faut vraiment l'avoir en tête parce que ça représente des sommes quand même assez importantes, voire très, même trop importantes. Et c'est d'autant qu'on ne peut pas basculer sur l'investissement.
Alors comment on fait pour solutionner ce problème, s'il y a une solution ?
Alors les solutions, si on connaissait la solution miracle, on s'empresserait de la mettre en application et puis même de la transmettre à nos collègues des autres collectivités. Malheureusement, on la connaît pas, si ce n'est d'essayer de réduire au maximum nos consommations. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place l'extinction aussi de l'éclairage public sur une plage horaire donnée. On fait très attention aussi à la consommation dans nos bâtiments. Donc on transforme aussi un peu les éclairages existants avec du LED, etc. Mais j'ai envie de dire, ça suffit pas pour éponger la hausse qui est juste énorme, quoi. C'est incroyable. Enfin, on a du mal à comprendre comment on a pu en arriver là.
Oui. Pas d'aide prévue en plus de l'État pour compenser
Si, puisqu'on a quand même l'amortisseur.
Il y a l'amortisseur
auquel on a droit. Mais j'ai envie de dire, par rapport à la hausse, Bon, c'est toujours mieux que rien, mais ça ne nous satisfait pas. Voilà, il faudrait qu'on arrive quand même à revenir à des tarifs qui soient corrects. Et on parle des collectivités, mais moi j'ai envie de parler aussi des particuliers et des ménages aux revenus modestes, où maintenant l'énergie, le chauffage, pour certains, n'est plus une priorité parce qu'il faut faire un choix entre se chauffer ou manger.
Mmh. Oui, ce qui est terrible. Comment on fait par rapport donc à la dette de la commune? On arrive quand même à la baisser ou pas? C'était à peu près 10 millions quand vous avez été élu en 2020, 10 millions de dettes au 31 décembre 2019. On en est où là actuellement?
Alors fin 2022, on était à 7,6 millions.
D'accord.
Donc on a baissé. En peu de temps, on arrive quand même à réduire, hein, parce que ça fait quand même un sacré delta. Et vu les projections, vu ce qu'on envisage de faire, on arrivera fin 2026 à environ 4,3 millions. Donc quand on regarde la strate de la commune, quand on regarde les autres communes, il n'y a absolument rien d'absurde à une dette de 4,3 millions fin 2026.
Oui.
En sachant et en ayant à l'esprit tous les investissements quand même qu'on aura réussi à faire. Maintenant, quand je dis réussi à faire, c'est pas uniquement nous, la ville de Marvejols, c'est que si on n'avait pas nos partenaires comme le département, la région et l'État, on n'aurait pas pu faire tous ces investissements et faire aboutir tous ces projets. Donc moi, je voudrais vraiment profiter encore une fois de cette antenne pour les remercier et de dire que, le département, la région et l'État sont à nos côtés.
Qu'est-ce qu'il en est des impôts locaux?
Alors, on l'a dit dans notre campagne électorale, on l'a redit à la cérémonie des vœux. On ne veut pas augmenter la fiscalité. On ne veut pas augmenter la fiscalité parce qu'il y a déjà énormément de charges qui pèsent sur nos ménages, comme je viens de le dire. Là, on est soumis tous et on est contraints à l'inflation. L'objectif, c'est pas d'aller rajouter une couche. Mais pour autant, on doit quand même continuer d'avoir un budget qui s'équilibre et qui se regarde, et un budget qui est sincère. Donc forcément, il y a des projets qu'on avait prévus, je l'ai dit lors de la cérémonie des vœux, des projets qu'on ne pourra pas mettre en œuvre, sans parler de les faire aboutir, de les mettre en œuvre. Et ça, c'est une gestion en bon père de famille, et je pense que n'importe quel concitoyen, Marvejolaise ou Marvejolais, est en capacité de le comprendre.
Voilà, il y a des choix à faire.
Exactement.
Du coup, pour aussi baisser les coûts, il y a des plans de sobriété énergétique qui peuvent être mis en place. On l'a vu avec l'éclairage qui peut être arrêté sur une partie de la nuit. Il y a des isolations qui peuvent être travaillées sur des bâtiments. C'est le cas, Jérémy Pic?
Oui. L'isolation sur les bâtiments, on a fait énormément d'efforts sur tout ce qui était calorifugeage, déjà de conduits enterrés sur tous les bâtiments communaux. Que ce soit sur les écoles, sur les bâtiments à location, la mairie, la médiathèque aussi, même si c'est plus communal. Mais et derrière, donc là, on attaque une grosse procédure sur la toiture du gymnase du Ranquet à Marvejols, qui n'émane pas forcément au début d'une envie d'isoler, mais plutôt d'une envie de corriger des défauts, des malfaçons, on les appelle comme on veut, mais des infiltrations d'eau en fait sur les espaces de jeu. Ceci dit, il nous semblait un peu utopique, une fois de plus, de refaire toute une toiture et essayer de ne pas en profiter pour isoler un petit peu le bâtiment.
Les infrastructures sportives, il y a des travaux qui sont prévus aussi, il me semble, hein, notamment sur Pineton.
Ouais, sur Pineton, à l'arrière de Pineton, à la limite avec les jardins ouvriers, en fait, on avait trois terrains. Alors actuellement, c'est pas des multisports, il y a du hand, du basket et un foot. Et ces trois terrains seront complètement refaits et remplacés par sur le modèle d'un city stade dédié l'un au basket, l'autre mixte hand foot et un autre hand, je crois, je les ai plus trop en tête, mais
d'accord.
Sur le modèle du city stade.
Ouais, c'est ça.
Oui.
Et ça, c'est prévu pour quand?
Alors ça, c'est acté.
C'est acté.
Oui, l'entreprise est retenue et on espère un début de travaux pour le printemps, voire l'été. Malgré tout, on est une fois de plus soumis à des délais de livraison.
Et oui, des matériaux.
Qui peuvent compliquer la chose.
Bien sûr. Ça m'amène à vous parler de la vie associative de Marvejols. Tout ça, comment se porte la vie associative à Marvejols?
Elle est riche.
Alors, la riche. On a la chance.
Je vous demande, mais je sais un peu, on a beaucoup de bénévoles.
Elle est riche d'idées, on va dire. Elle est riche d'idées et riche d'actions. On a la chance à Marvejol d'avoir un tissu associatif extrêmement dynamique. Qui couvre tous les champs possibles. Donc on a des associations sportives, culturelles, caritatives, etc. Il y a, je dirais, une bonne ambiance entre ces différentes associations. On sent voilà, la volonté de pouvoir œuvrer ensemble. Et ça m'amène du coup à parler peut-être juste en deux mots un peu plus du projet de la Goutelle pour dire que c'est parce qu'on a ce tissu associatif dynamique sur la ville qui apporte énormément aux habitants de Marvejol. Et je voudrais vraiment remercier l'ensemble des bénévoles qu'on a mis en place ce projet de maison des associations à la Goutelle. Voilà, ça part d'eux.
Vous avez remis en place tout un programme d'animation aussi depuis quelques années. Je pense aux estivales dont on se fait écho sur nos ondes l'été. Ça va rester pour l'an prochain, pour l'été prochain, les estivales. On programme quoi cette année?
Ça reste d'actualité. Donc là, je voudrais remercier Chantal Labresse qui est déléguée adjointe aux animations puisque c'est elle avec Claudie Arnal qui organise tout cela. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Je crois que cette organisation est vraiment menée de main de maître. Là, on nous a pas encore dévoilé tout le programme, mais Chantal aime bien faire du hall suspense, mais on lui fait confiance pour qu'on puisse passer des moments aussi réjouissants que ceux qu'on a pu passer l'année dernière.
Ben c'est très bien, je crois qu'on a bien fait le tour. Je vais vous laisser le mot de fin, vu que vous avez la parole, Patricia Brémond, pour conclure cette émission donc, qui a parlé un peu du début de ce mandat de 2022, des projets qui ont été faits et des projets surtout d'avenir de cette commune.
Des projets d'avenir de cette commune, mais ce que je voudrais surtout souligner aujourd'hui, c'est que Marvejol, alors je ne vais pas m'auto-congratuler, mais Marvejol a retrouvé quand même un certain dynamisme. On le voit notamment par les porteurs de projets qui veulent venir s'implanter sur le territoire, notamment en matière de développement économique. Je crois qu'on a reçu bon nombre de porteurs de projets. On a fait l'acquisition au niveau de la communauté de communes de terrains supplémentaires qui aujourd'hui ont quasiment tous trouvé preneur. On va bientôt pouvoir, on l'espère, si tout le monde y met du sien, signer les actes de vente. Donc c'est quelque chose qui pour nous est quand même assez réjouissant parce que ça veut dire que des porteurs de projets, des nouveaux projets, des nouvelles entreprises, donc des nouveaux emplois, des nouvelles familles, même si ce n'est pas un nombre extrêmement important, mais on sait qu'un seul emploi, un seul habitant de plus, nous, sur la commune, c'est très important. Donc voilà ce que je voudrais aussi ajouter. Il y a du dynamisme au niveau des animations et des associations, vous l'avez dit, mais il y a aussi du dynamisme économique. Et je voudrais vraiment aussi saluer aujourd'hui les efforts que font les commerçants, quelquefois, sur le territoire, pour pouvoir permettre, justement, ce dynamisme. Si vous le permettez, un petit mot sur justement la démographie. Donc, on se réjouit puisque nous, on a accueilli 17 habitants en plus en 2021 et 29 en 2022. Donc, c'est plutôt pas mal et ça atteste encore une fois de ce dynamisme qui s'est remis en place sur Marvejol. Et puis surtout, si vous le permettez, remercier l'ensemble de mon équipe parce que aujourd'hui, on est trois. Là, devant votre micro, mais tout ce qu'on vient d'énumérer devant vous, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas tous nos collègues à nos côtés, que ce soit au niveau de la commune ou de la communauté de communes. Donc je voudrais vraiment saluer l'implication de tous les élus de la majorité de Marvejol, des conseillers communautaires également, mais aussi de nos agents, parce que les élus ont besoin des agents. Je dois dire qu'on a des agents qui sont à notre écoute, qui sont toujours présents à nos côtés, qui sont réactifs. Et ça, je tiens à le souligner parce que j'entends trop souvent que la ville de Marvejol a trop d'agents et qu'ils ne font rien, etc. Donc aujourd'hui, j'apporte ce démenti. On a des agents en nombre suffisant, mais on a des agents qui travaillent.
Qui ne nous écoutent pas parce qu'ils sont en train de travailler. Et on les salue. Merci bien.
Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma.